Pascal, Emmanuel Macron l'a fait sienne. Le FMI, la Banque mondiale, le G7, le groupe des pays les plus riches, n'en sont pas encore tout à fait là. Ils proposent plus classiquement aujourd'hui d'accroître leur aide ou bien de suspendre la dette en question, au moins pour 6 mois, peut-être pour 1 ou 2 ans. 76 pays seraient concernés, essentiellement en Afrique. C'est un premier pas, mais suspension, ça veut pas dire, ça veut dire simplement report, rééchelonnement, pas annulation, donc on n'en est pas encore à renverser la table.
Mais alors c'est quoi l'intérêt de renverser la table et d'annuler la dette ?
Je vais prendre une comparaison, c'est un peu comme la question des migrants. Si l'économie africaine est assez forte pour créer des emplois et dessiner à un avenir meilleur, les candidats au départ et à l'émigration vers les pays du Nord diminueront d'autant. Bon, si le système de santé africain parvient à résister au virus, le risque d'un rebond épidémique, d'une deuxième vague qui revienne en Europe, diminuera d'autant. D'où l'intérêt d'effacer la dette pour permettre que l'argent dégagé serve à équiper les hôpitaux et les systèmes de santé en Afrique. Et c'est possible parce que les pays africains sont proactifs en fait. Pour la plupart, ils ont réagi jusqu'à présent plus rapidement que nous. En plus, comme la population africaine est jeune, 20 ans en moyenne, elle résistera peut-être mieux au virus qui frappe d'abord les personnes âgées. Donc l'effort sanitaire nécessaire n'exigera peut-être pas autant de moyens qu'en Europe. Annuler la dette fait donc sens, au moins par intérêt bien compris, pour éviter que la tragédie nous revienne en boomerang.
Et donc ça va se faire ou pas, Jean-Marc ?
En fait, c'est pas gagné, pour au moins deux raisons. La première, c'est l'égoïsme à courte vue. Autrement dit, dès que l'épidémie aura reflué en Europe pour aller potentiellement faire des ravages en Afrique, la tentation sera grande d'oublier les promesses d'aujourd'hui, de renouer avec les vieux clichés confortables, fatalistes sur l'Afrique de tous les maux, du sida, de la famine, d'Ebola, du paludisme, en y ajoutant juste à la liste coronavirus. La deuxième raison, c'est que rien ne se fera sans la Chine. Les créanciers chinois, publics ou privés, détiennent désormais à eux seuls 40% de la dette africaine. En 20 ans, la Chine est devenue de loin le premier créancier du continent, une stratégie qui permet aux entreprises chinoises de multiplier les contrats sur le sol africain. Donc Pékin acceptera peut-être un report de la dette, mais une annulation ? Improbable. Donc le risque est là. Faute de moyens, le système de santé africain peut exploser en vol. Le continent compte 40 fois moins de médecins que l'Europe. Et la suite peut ressembler en chaîne à instabilité politique, exode économique, recrudescence du virus, rebond épidémique en Europe. Le bon sens, y compris, j'y insiste, dans notre propre intérêt, c'est de rompre ce cercle vicieux en aidant massivement l'Afrique. Mais le bon sens a beaucoup manqué dans le monde d'avant.
Jean-Marc Fauré, le monde d'après. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, on reste ensemble bien sûr, juste après ça.
Comment animer votre vie de famille sans écran pendant cette période de confinement ? Radio France propose une sélection de programmes pour vos enfants. Culture, musique, fiction ou activités à faire ensemble. Des idées pour toute la famille pendant ces vacances scolaires inédites. Retrouvez toutes les infos sur radiofrance.fr.
Allez, sur France Inter, il est 19h. Sébastien Paour pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Les entrepôts d'Amazon trop risqués pour les employés. La justice ordonne une évaluation des risques liés au virus. Et d'ici là, les commandes sont limitées à l'essentiel. Comment ouvrir les écoles à partir du 11 mai ? Par niveau, par région, demi-classe ou demi-journée ? Nous ferons le tour des pistes à l'étude. Au sommaire également ce soir, le festival de Cannes sous une autre forme et la liste sans fin des festivals d'été annulés. Le début du déconfinement en Autriche, le nom d'Obama sur le ticket Biden pour la présidentielle en novembre aux États-Unis. Et au téléphone sonne Fabienne.
Au téléphone sonne toutes vos questions sur cette fameuse rentrée scolaire. Je mets des guillemets du 11 mai, rentrée partielle, rentrée comment ? Est-ce que les directeurs et directrices d'école, les instituteurs et tutrices savent comment il faudra s'organiser ? Comment ça se passe aussi de l'autre côté du spectre de l'éducation, dans les facs qui, elles, n'ouvrent pas ? Comment ça va se passer pour les examens ? Tiens, vous avez des nouvelles de Parcoursup aussi ? 01 45 24 7000.
France Inter.
Ceux qui travaillent dans ces entrepôts considèrent qu'ils ne sont pas assez protégés face au coronavirus. La justice leur donne donc raison. Elle laisse 24 heures aux géants du commerce en ligne Amazon pour évaluer les risques que prennent ses salariés. Et elle lui ordonne, la justice, en attendant, de limiter son activité aux produits essentiels. Maxime Debs, alimentation, produits d'hygiène et produits médicaux.
Et forcément ce soir, vous vous en doutez, Judith Krivine, l'avocate de l'Union syndicale solidaire à l'origine du référé, se félicite de cette décision.
Elle vient précisément dire à Amazon, tout le marketing que vous faites depuis 2 semaines, ce que vous faites qui relève uniquement de l'apparence, maintenant ça suffit. Vous allez aller sur le terrain, vous allez faire une évaluation de manière concertée avec les représentants du personnel, réduire votre activité aux mesures essentielles. Et si vous ne le faites pas, vous serez sanctionné puisque vous aurez une astreinte d'1 million par jour à payer.
Injonction qui sonne bien sûr comme une victoire pour les syndicats qui dénoncent une improvisation depuis des semaines dans les mesures barrières mises en place dans les entrepôts, parfois totalement à la hâte, sans qu'ait été prouvée réellement leur efficacité. Et pendant ce temps, pour Laurent Dégouzet, co-délégué de Sud-Commerce, ce sont des centaines de salariés précaires pour beaucoup qui se mettent en danger.
Il faut comprendre que les intérimaires eux-mêmes ont peur aussi d'aller travailler chez Amazon. Donc après, maintenant, Amazon, d'une certaine manière, a creusé sa propre tombe. Ils ont voulu jouer avec le feu, et pardonnez-moi, mais aujourd'hui, ils sont brûlés.
Amazon qui exprime, hein, bien sûr, son désaccord ce soir avec cette décision, expliquant avoir distribué des lingettes, des masques et mis en place notamment des contrôles de température pour ses salariés. Mais à partir du moment où l'on peut être atteint du virus sans présenter de signes de fièvre, tout ça ne suffit pas, répondent les syndicats.
Amazon est aussi condamné à verser 4 800 euros de dommages au syndicat Sud. Dans un mois, donc le 11 mai, si tout va bien, le début du déconfinement, c'est la date donnée par Emmanuel Macron, date d'objectif, a précisé Christophe Castaner ce matin sur Inter. Édouard Philippe promet à l'Assemblée qu'il présentera son plan complet de sortie dès qu'il sera prêt. Avant d'entrer dans le détail, une certitude, l'isolement physique est donc encore notre quotidien pour 4 semaines. Un mois de plus, lourd à envisager, surtout lorsqu'on vit dans un quartier défavorisé. Perspective avec Philippe Bocara depuis la cité de la Benoze dans le quartier nord de Marseille.
Et au 9e étage de cette tour, au milieu d'autres tours, Fadela avec ses 4 enfants de 1, 3, 11 et 12 ans. Seul espace de vie sur l'extérieur, un petit balcon, pas évident.
C'est un petit étroit et personne n'arrive à avoir d'intimité, d'espace à lui. C'est compliqué, quoi. Les enfants se supportent de moins en moins. On commence à sentir vraiment la frustration chez les enfants, quoi. Et même chez moi, je prends sur moi beaucoup.
Sans emploi actuellement à cause de la crise sanitaire, Fadela vit avec moins de 1000 euros par mois.
C'est compliqué parce que avant il y avait la cantine, j'avais la demi-gratuité. En réalité, on se rend pas vraiment compte, mais là, je m'aperçois que ça enlevait une sacrée épine du pied, quoi. Toutes les mois, avec mes 4 enfants, et là, c'est un sacré budget, quoi. Le budget alimentation, il a doublé, voire plus. J'ai l'impression qu'ils mangent beaucoup plus les enfants, je sais pas. C'est pas la fin du mois qui est difficile, hein. C'est à partir du milieu de mois, quoi. Hein.
Elle espère obtenir des aides de la ville, mais en attendant...
J'étais dépitée quand j'ai regardé le président. J'ai eu du mal d'imaginer encore un mois comme ça, enfermé, sans pouvoir sortir. C'est horrible.
Mais pas question pour elle de craquer. Son seul souhait, retrouver dans un mois son emploi.
Le retour au travail pour certains parents se dessinera à partir du 11 mai, celui des enfants en classe aussi. Vous en parlerez au téléphone sonne tout à l'heure, Fabienne. Pour ne pas creuser davantage les inégalités, a dit hier Emmanuel Macron, ça se fera progressivement, prévient déjà le ministre Jean-Michel Blanquer, qui recevait Fabien Cazot, les syndicats, cet après-midi par visioconférence.
Le casse-tête sur la réouverture des écoles à partir du 11 mai ne fait que commencer. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera progressive. Plusieurs syndicats poussent pour des retours d'élèves en groupe réduit, par demi-classe. Les chefs d'établissement dans le secondaire ont plaidé, eux, cet après-midi, pour un fractionnement des emplois du temps par demi-journée ou demi-semaine. L'objectif, dans les collèges et les lycées, où se croisent chaque jour plusieurs centaines d'élèves et d'adultes, c'est que les distances puissent être respectées. Pourquoi pas aussi une ouverture différenciée dans le temps, selon l'âge des élèves, ou encore la situation sanitaire dans les différentes régions, des pistes à l'étude mais pas confirmées pour le moment. Autre question en suspens, celle des masques qui pourraient être rendus obligatoires pour les élèves et les enseignants, à condition bien sûr que d'ici là, il y en ait suffisamment en stock. Le ministère de l'Éducation nationale compte en tout cas continuer à associer de très près les syndicats enseignants à ces réflexions. Un veto de leur part compromettrait grandement la réouverture des écoles, même progressive, dans 4 semaines.
Le monde est figé, l'économie mondiale va se contracter.
De 3% cette année d'après le FMI. En France, le gouvernement noircit encore le tableau. Bruno Le Maire donne les chiffres avant le projet de loi de finances rectificative qui sera présenté demain en Conseil des ministres. Prévision de croissance à moins 8%, déficit public aux environs de 9% du PIB et dette en hausse de 115%. Et voici un secteur particulièrement menacé, la culture sous toutes ses formes, intermittents, libraires, festivals et cinéma. La direction du Festival de Cannes annonce ce soir qu'elle envisage de nouvelles formes, Thierry Fioril, pour l'édition 2020.
Au lendemain des nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron, le Festival de Cannes prend acte qu'il est désormais difficile de penser qu'il puisse être organisé cette année sous sa forme initiale. Le terme annulation n'est pas prononcé et dans une vague formule, le festival annonce qu'il étudie l'ensemble des éventualités permettant d'accompagner l'année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d'une manière ou d'une autre, laquelle il faudra attendre. Avec un tel suspense, on peut tout imaginer évidemment. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent. Thierry Frémaux a toujours été opposé à une croisette en version numérique. Ce qui est sûr aussi, c'est que si la Mostra de Venise est maintenue début septembre, elle attirera des films privés de Cannes. Le fameux label avec ses palmes sur l'affiche des films suffira-t-il à créer des événements au moment de leur sortie en salle? Salle toujours fermée jusqu'à au moins la mi-juillet.
Les festivals sont tous obligés de s'arrêter avec des conséquences lourdes également. Les annulations pleuvent depuis hier soir à Avignon, les Eurockéennes de Belfort, Jazz à Vienne, les Nuits de Fourvière, peut-être demain les Vieilles Charrues, sans oublier les Francofolies prévues du 10 au 14 juillet à La Rochelle. Le patron des Franco, Gérard Pont, n'aurait jamais imaginé en arriver là, il le dit à Isabelle Pasquier.
D'abord, c'est compliqué d'afficher sa déception avec ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a des gens qui sont dans des situations bien plus douloureuses que nous. Mais à titre personnel, c'est vrai que c'est une vraie douleur, c'est une vraie tristesse. Toute l'équipe est évidemment déçue, mais motivée pour continuer. Je pense à tous nos partenaires qui sont restés fidèles. Je pense évidemment aux hôteliers, aux cafés, aux restaurateurs, à toutes les entreprises qu'on fait travailler pendant le festival. Je pense aux techniciens. Enfin, je pense à tous ces gens qui font des Francofolies une superbe fête. Et encore plus cette année où on avait 45 000 festivaliers qui avaient déjà acheté leurs billets fin février. Donc, je pense à eux qui vont être tristes de ne pas être au rendez-vous. Je pense évidemment aux artistes, mais les artistes, on les a déjà réinvités pour 2021 et je pense qu'il va y avoir beaucoup de solidarité. Je pense qu'on a tous envie que les Francofolies existent en 2021 et on n'imagine pas La Rochelle sans ces Francofolies. Donc j'ai très envie qu'on fête ce retour à la vie festive encore plus fort en 2021. On n'a pas de Francofolies en 2020, on en fait des plus belles encore en 2021. Donc je pense qu'il faut avoir au moins ce rêve-là.
Le patron des Franco, Gérard Pont, quant à la polémique sur le travailler plus après le confinement lancé par le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, le débat est clos, dit le président du MEDEF aujourd'hui.
Nos vies confinées et parfois sans beaucoup d'humanité.
Exemple avec l'histoire de cet habitant du Loir-et-Cher qui voulait voir son père mourant sur l'île de Ré, mais qui a été obligé de faire demi-tour à Rennes-Grissel, à quelques kilomètres de chez lui.
Le confinement, je le comprends et je le respecte, explique Patrice Dupas. Quand il y a 10 jours, il apprend que son père, 82 ans, est en train de mourir sur l'île de Ré, à 300 km de chez lui. Il se renseigne donc d'abord auprès des gendarmes de son département, le Loir-et-Cher.
Ils m'ont dit oui, c'est un motif familial impérieux, il n'y a aucun problème.
Le lendemain, il prend la route, se fait contrôler une première fois, sans encombre, mais après avoir franchi le pont de l'île de Ré.
Recontrôle de gendarmerie. Donc je vous dis, ça va durer 30 secondes. Non, ça n'a pas duré 30 secondes. Je suis tombé sur un maréchal des logis tout à fait poli et courtois, comme moi je l'ai été, qui, en regardant mon attestation et ma pièce d'identité, m'a dit non, vous passez pas. C'est pas impérieux, on n'a pas le droit d'aller visiter les anciens dans les EHPAD. J'ai dit, attendez, mon père n'est pas dans un EHPAD, il est en hospitalisation à domicile. Non, vous passez pas. Que je vous mets une amende.
La belle-mère de Patrice Dupas tente d'expliquer la situation par téléphone aux gendarmes, puis le médecin de son père, sans succès. Il finit par faire demi-tour.
Le soir même, je suis connecté sur le site de la gendarmerie nationale. Je tombe sur un adjudant qui me dit non, vous étiez sur un motif impérieux, je suis vraiment désolé. Je suis pas anti-gendarme, je suis un ancien gendarme auxiliaire. Mais là, je trouve qu'il y a un abus.
Son père meurt 3 jours plus tard.
C'est le dernier jour où on pouvait parler une dernière fois. On a plein de choses à dire à son père. Un père, c'est important.
Jointe par France Inter, la gendarmerie reconnaît une erreur d'appréciation et invite Patrice Dupas a contesté cette verbalisation. Il a également fait un signalement auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
Autre conséquence du confinement, les conditions de vie dans les centres de rétention administrative, en l'occurrence dans celui de Vincennes, près de Paris. 3 cas avérés de Covid. Les migrants ne peuvent pas repartir dans leur pays d'origine puisqu'il n'y a plus de vol. Des associations ont donc saisi le tribunal administratif Corinne Audouin pour obtenir la fermeture du centre. L'audience avait lieu cet après-midi.
À l'audience, la représentante de la préfecture de police retrace la chronologie. Lundi 6 avril, un retenu géorgien se plaint de symptômes grippaux. Le mercredi, il est testé positif. Entre-temps, il a contaminé son compagnon de chambre, un Roumain. Un 3e cas positif, un Afghan, a été dépisté hier et on attend le résultat du test d'un Algérien. Les 3 malades dépistés ont quitté Vincennes, envoyés dans les centres Covid-19 pour les SDF gérés par l'Agence régionale de santé. L'administration assure que les 47 retenus encore présents à Vincennes sont en train d'être testés et qu'ils sont désormais seuls par chambre. La préfecture demande au juge de ne pas fermer le centre. Les procédures sont en place, tout est sous contrôle. Relâcher ces retenus qui sont en situation irrégulière serait un risque de trouble à l'ordre public. Les avocats des requérants rappellent que la moitié des retenus sont là depuis plus de 39 jours. On ne sait pas s'il y a des masques, du gel, comment est fait le ménage. On vous dit qu'on fait au mieux. Mais on voit bien que ça ne marche pas, s'agace Maître Berdugo. On a 3 cas en moins d'une semaine. C'est un vrai bouillon de culture. Il faut fermer le centre et le décontaminer, plaide l'avocat. Le juge rendra son ordonnance demain après-midi.
Et parmi les annonces du chef de l'État hier, suivies d'ailleurs par près de 37 millions de personnes devant la télévision, record absolu, la promesse d'un masque grand public pour chaque Français à partir du 11 mai. Thibault Lefèvre, qu'est-ce que c'est qu'un masque grand public ?
Il faut d'abord s'entendre sur la définition d'un masque grand public. Avant Emmanuel Macron hier, ce sont les membres de l'Académie nationale de médecine qui, le 2 avril dernier, ont utilisé l'expression. Yves Buisson est le responsable de la cellule de veille Covid-19 de l'Académie.
Un masque grand public alternatif, ce sont des termes utilisés pour dire qu'on ne parle pas de masques médicaux. Le but de ces masques n'est pas de se protéger, mais de protéger les autres.
Dans l'urgence, la Direction Générale des Entreprises a donc créé deux nouvelles catégories de masques réutilisables, pour la plupart en tissu et à usage non sanitaire. Des masques pour les personnes qui ne sont pas en contact avec le public et des masques beaucoup plus filtrants qui sont actuellement en cours de production dans plus de 80 entreprises textiles. En attendant les livraisons échelonnées sur les prochaines semaines, Yves Buisson aurait préféré des mesures immédiates et beaucoup plus radical.
Attendre un mois pour prendre cette disposition, c'est donner quand même 4 semaines au virus pour pouvoir circuler librement dans la population. Et ça, c'est ce que je regrette, qu'il n'ait pas été dit. En attendant, couvrez-vous le nez et la bouche avec ce que vous pouvez.
Le port des masques alternatifs est une mesure barrière supplémentaire. Elle ne remplace pas, mais s'ajoute à la distanciation sociale et au lavage de mains.
Thibault Lefèvre.
L'Autriche commence son déconfinement.
Réouverture des jardins publics et des petits commerces, mais les clients doivent porter un masque. Reportage à Vienne pour Inter, Isorias.
Après un mois de fermeture, les 4 bijouteries que possède Hermann Gmeiner-Wagner ont rouvert aujourd'hui à Vienne. Un réel soulagement pour lui.
Since 4 weeks, we have no turnover.
Depuis 4 semaines, nous n'avons pas de chiffre d'affaires, pas de profit et nous avons beaucoup de dépenses. En comptant les 4 boutiques, nous nous attendons à une perte de l'ordre de 1 million d'euros pour ces 4 semaines.
Nous avons perdu dans ces 4 semaines roughly 1 million d'euros.
Comme dans tous les magasins de moins de 400 mètres carrés, le masque est désormais obligatoire dans ces bijouteries et le nombre de clients limité afin de respecter les distances de précaution. Rassurant aux yeux de ce commerçant qui reste optimiste pour l'avenir.
We did about 65% turnover with Austrian people.
Avant la crise du coronavirus, les Autrichiens représentaient 65% de notre chiffre d'affaires et les touristes 35%. Dans les mois à venir, il est clair qu'il n'y aura pas de touristes en Autriche, mais nous nous attendons à ce que le marché autrichien augmente.
We expect that the market of the Austrian people will raise up.
Prochaine étape, la réouverture de l'ensemble des magasins, dont les coiffeurs début mai. Les hôtels et restaurants devraient suivre à compter du 15. Vianne Isorias, France Inter.
Le pays de 9 millions d'habitants compte 400 morts du virus pour l'instant. Chez nous, le 11 mai, ce sera donc le début de la fin du confinement et 180 personnalités pensent déjà à un futur plus vert. Ministre, eurodéputé, ONG, grand patron, il signe une tribune diffusée dans plusieurs journaux européens, dont Le Monde. Il prône une alliance européenne pour une relance vers tout cela. Alors que le réchauffement climatique ne fait pas de pause malgré la pandémie, le mois de mars qui vient de s'achever, Célia Quilleret, sera l'un des plus chauds jamais enregistrés depuis le début du XXe siècle.
Ce mois de mars 2020 est en effet sur la 2e place du podium des mois de mars les plus chauds depuis 1880, date des premiers relevés de température, le record est en mars 2016. Globalement, la planète affiche déjà 1 degré de plus en moyenne que dans la 2e moitié du 20e siècle et dans certaines régions, les écarts sont bien supérieurs. Ainsi, dans une grande partie de la Russie, autour de la mer Baltique ou dans certaines régions d'Asie, les températures étaient supérieures de 8 degrés à la moyenne saisonnière. Idem dans l'Est et l'ouest des États-Unis, au Mexique, dans le sud de l'Amérique latine et dans l'ouest de l'Australie. Et dans d'autres régions du globe, comme l'Europe de l'Est ou du Nord, le thermomètre a pu atteindre 2 à 4 degrés de plus que la moyenne. Il sera bien difficile dans ce contexte de limiter le réchauffement à 1,5 degré. La crise du coronavirus entraîne déjà une diminution des émissions de gaz à effet de serre, une chute d'un quart par exemple en Chine, mais cela risque d'être temporaire. Pas sûr que ce ralentissement économique ait des effets réels sur la hausse des températures déjà bien ancrées au niveau mondial.
C'est ce qui s'appelle un soutien de poids, même s'il est assez attendu. Barack Obama se rallie à la candidature de son ancien vice-président, Joe Biden, probable adversaire démocrate de Trump dans la course à la Maison-Blanche en novembre. Soutien de l'ancien président dans une vidéo et sur fond évidemment de crise sanitaire.
This crisis has reminded us
Cette crise nous rappelle que c'est important d'avoir de bons gouvernements, que les faits et la science, cela compte, que le respect de la loi, cela compte, qu'avoir des dirigeants informés, honnêtes et qui cherchent à réunir, à rassembler les gens plutôt que les diviser, ce genre de dirigeants-là, cela compte. En ce moment précis, nous avons besoin d'Américains de bonne volonté qui nous rassemblent. Il faut qu'on se lève contre ces décisions politiques trop souvent marquées par la corruption, le manque de compassion, la désinformation, l'ignorance. Il est temps de se battre pour nos valeurs. Alors, rejoignez-nous, rejoignez Joe et prenez soin de vous, de vos familles et les uns des autres.
Le soutien de Barack Obama à Joe Biden. La date du 11 mai donne des perspectives au championnat de France de football. La Ligue professionnelle envisage une reprise le 17 juin avec des matchs qui s'enchaîneraient tous les 3 jours et à huis clos pour finir la saison le 2 août. Saison de hand masculin qui est annulée. Le PSG est déclaré champion. Le Tour de France, lui, se cherche une nouvelle date, peut-être en août ou en septembre. On termine dans une commune de Dordogne, Abjas sur Bandia, 620 habitants. Sa boulangerie, son coiffeur, salon de thé, l'épicier qui passe une fois par semaine. Tout cela évidemment fermé avec le confinement. Le supermarché le plus proche est à 10 km, d'où cette idée du coiffeur Théo Cobel, transformer son salon en épicerie locale.
Du pain, de la salade, de la viande, il y a de tout dans cette épicerie du confinement. C'est Christophe Baquet, le coiffeur de la commune, qui a eu l'idée. Son salon est fermé, alors il a mis son local à disposition.
C'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais je suis arrivé, j'ai bougé tous les meubles du salon. Bon, il y en a un peu partout, c'est-à-dire que les présentoirs où il y avait habituellement des bouteilles de lac, aujourd'hui c'est des pâtes et du riz. C'est un peu, on va dire, épicerie de fortune, mais bon, on a essayé de faire un accueil sympathique.
Et en cette période de confinement, les habitants répondent présents. Michel habite la commune et elle est heureuse de ne plus faire 10 kilomètres de route pour aller faire ses courses.
Vous savez, c'est quand même déjà compliqué de vivre à la campagne où on est toujours obligé de prendre sa voiture pour aller faire ses quelques courses. Ça évite d'aller faire des kilomètres et des kilomètres. Hein. C'est là où on s'aperçoit que quand même, il y a quelque chose qui manque. Hein.
Et même les producteurs locaux en profitent. 5 viennent alimenter régulièrement l'épicerie. C'est le cas de Corinne Boyer, maraîchère à Abjas, et elle se félicite d'avoir rejoint l'aventure.
Surtout que ça fonctionne bien. Abjas, c'est vrai que ça m'aide bien. Et j'ai trouvé que c'est un bon procédé, quoi. Ça me rassure déjà, bon, les gens comme ça ont besoin de moins bouger. Et puis bon, ils peuvent manger local, frais. Si on peut amener un petit peu de bonheur en passant par mes légumes, c'est la meilleure des récompenses. Hein.
Et les habitants se mettent désormais à rêver d'une épicerie permanente à Abjas.
Et si vous passez par Abjas sur Bandia, merci Théo Cobel. Les horaires, c'est 9h midi, 14h, 18h pour cette épicerie salon de coiffure.
Bah, vous faites bien de le préciser.
Coiffure peut-être.
Ouais, bah, ne m'en parlez pas.